Mémoire vive,
présentée par Stéphane Bou
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Comment l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie ont-ils été placés devant la loi? Quelle furent l'histoire des combats antiracistes et des procédures judiciaires au terme de laquelle histoire les tribunaux ont pu recevoir des plaintes contre ceux qui propagent les préjugés et la haine raciste ou antisémite? Alors, la semaine dernière, dans une première émission avec l'historien Emmanuel De Bono, auteur du Racisme dans le prétoire, récemment paru au PUF avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, nous sommes revenus sur cette histoire du racisme dans le prétoire et notamment sur les débuts de cette histoire législative et judiciaire. Alors, on va la poursuivre aujourd'hui dans une seconde omission, parce que c'est un livre très riche qui va dans un grand nombre de directions. Bonjour Emmanuel De Bono, merci de revenir continuer à nous parler de ce livre. On était dans le moment Marchandeau, la loi de 1939 et des problèmes que ça pose, des problèmes qui ont provoqué le fait qu'il a fallu que cette loi existe, ce que ça a suscité, et puis cette loi en fait va devenir obsolète progressivement, et c'est ce que vous montrez. Et en fait, j'ai presque envie de partir d'une de vos phrases pour cette seconde émission. Vous écrivez: en 1958 s'ouvre une période de réflexion et d'action concernant les modifications à apporter à la loi Marchandeau, dont les limites ont rapidement été mises à jour. Alors peut-être on peut partir de ça. Quelles sont ces limites? Et comment ces modifications qu'il fallait apporter ont conduit à l'adoption en 1972 de la loi Pleven, qui est encore la loi avec laquelle on pourra en parler, et ont récemment été condamnés l'année dernière des célèbres personnalités.
Oui, alors effectivement, la loi est, comme j'expliquais dans la précédente émission, la loi est compliquée d'usage parce que elle est rédigée de telle manière que il faut remplir en fait un certain nombre de conditions, ce qui est toujours le cas aujourd'hui avec toutes les lois, mais celles-là sont particulièrement complexes à remplir pour pouvoir établir finalement le délit.
Il n'y a pas un problème aussi concernant qui peut venir porter plainte?
Absolument, il faut qu'en fait une personne soit, la personne qui a fait l'objet en fait d'une insulte, d'une injure ou d'une propos diffamatoire peut venir, mais il faut évidemment que l'insulte en fait soit suffisamment démontrée, qu'elle vise la totalité d'un groupe. Et c'est toujours très compliqué. Je vais vous donner un exemple un peu caricatural, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris une décision qui avait été rendue en 65 lors d'une affaire justement d'injure où une personne dit sale juif ou sale juive à une
oui, je me rappelle,
employée dans une entreprise. Ouais. Et en fait,
sein d'une entreprise.
Voilà, sale juif, c'est pas contre tous les juifs, c'est contre cette personne. C'est une mauvaise juive parmi des juifs qui sont finalement des personnes comme tout le monde et qui sont. Voilà, c'est le type d'argument qu'on peut finalement opposer.
Il faut insister là, parce que vous allez vite, mais il y a plusieurs pages là-dessus. Il faut insister sur le fait que pour la cour à ce moment-là, c'est audible, on peut dire sale juive à quelqu'un dans une entreprise. Avec la loi Marchandeau, il n'y a aucun problème.
On se rend compte aussi qu'on est un peu dans les débuts de ces problématiques-là. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont surprenantes dans les tribunaux, parce que aussi, véritablement, les magistrats ne sont pas encore complètement aguerris. Il y a beaucoup de procès en fait, qui se déroulent déjà dans la 17e chambre correctionnelle, qui est aujourd'hui un peu spécialisée dans tous ces procès autour de la liberté d'expression, etc. Et donc, cette époque-là, c'est encore l'insulte raciale ou l'injure raciale, c'est quelque chose d'assez nouveau. Lorsque, par exemple, Poujade parle des juifs certains juifs comme des vampires de haut vol, lorsqu'il cite par exemple Rothschild, Mendès et je ne sais plus lequel est le troisième. Mais on est finalement pour les juges, en tout cas dans le cadre de ce procès contre Poujade qui se déroule en 62 ou 63, ce ne sont pas des propos, on ne fait pas de lien finalement entre ce qui s'abat sur ces grandes figures emblématiques et ce que ça peut impliquer après comme forme d'application finalement de juifs, des juifs en général. C'est-à-dire qu'en fait, un tas de mécanismes qui pour... Et encore aujourd'hui, ce n'est pas complètement clair pour tout le monde, mais à tête de mécanisme, ce ne sont pas encore en place, en tout cas dans l'esprit des magistrats. Ce qui fait qu'on peut effectivement laisser entendre que sur un monument funéraire, enfin sur les hommages aux soldats tombés pour la France, on ne trouve pas beaucoup de Mendès ou de Rothschild. Effectivement, c'est voilà, ça passe comme ça parce que ben non, on parle bien effectivement. Oui, il y a pas beaucoup de Mendès, ou de Rothschild. Ça veut pas dire que les propos s'adressent à tous les Juifs. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais voilà, c'est le genre de subtilité dans lesquelles effectivement s'engouffrent finalement les avocats aussi. Et où ceux qui portent plainte sont un petit peu démunis parce que il y a ce type de.
Et puis les gens sont habiles. Enfin, il y a un chapitre sur Pierre Boutan et Mendès, l'obsession de Pierre Boutan dans les années 50. Mendès, il joue avec ça. Et vous le dites, il veut défier la loi Marchandeau. Il veut savoir jusqu'où il peut aller. Et en fait, il y a une manière de jouer avec elle et de rendre finalement tout ce qu'il a à dire possible d'une certaine manière,
oui,
non?
Oui, hein, oui.
Et Mendès, d'ailleurs, à ce moment-là, il y a un procès qui est fait, mais il ne veut pas le faire lui-même. On sent qu'il y a des réticences de son propre côté. Ouais. Il gagne un procès, mais pas sur les termes même de la question raciste et antisémite. Oui. Enfin, il est passionnant, ce chapitre. On voit que tout le monde se regarde à distance, presque.
Il faut bien rappeler qu'il est président du Conseil. Évidemment, est-ce que le président du Conseil... Alors, il y a suffisamment de matériaux dans les propos de Boutan pour... qui soit attaquable pour des offenses au chef de l'État.
Exactement.
Enfin, à des ministres ou... Je ne sais plus exactement quel est l'intitulé de l'infraction, mais donc il préfère finalement laisser de côté la question de l'injure ou de la diffamation raciale parce que c'est quand même casse-gueule, parce qu'on n'a pas intérêt à perdre sur ce terrain-là. Et puis, encore une fois, je pense que Mendès a aussi une telle vision de l'État et de la hauteur de ça. De sa charge, qu'il voilà, le seul finalement, le chef d'inculpation qui est pour lui important, c'est celle de l'offense et du dénigrement finalement de la fonction de président du Conseil ou de toute autre fonction.
Quand bien même il est, il faut le redire parce que c'est important, quand bien même c'est en tant que juif qu'il est attaqué. C'est en tant que juif, explicitement par Boutan, qu'il est attaqué. Mais revenons sur ce passage Marchandeau-Pleven, quoi. Qu'est-ce qui fait, voilà, les limites de Marchandeau et nécessité pour qu'une nouvelle loi vienne la remplacer.
Alors, il y a, j'en avais parlé la fois dernière, la discrimination n'est pas un problème qui est pris en charge par la loi. Par exemple, la loi, c'est, encore une fois, je le répète, c'est injure et diffamation. Et la question de la discrimination, qui prend de plus en plus de place dans cette France d'après-guerre, des Trente Glorieuses, avec croissance économique, arrivée de plus en plus importante d'immigrés, de travailleurs en provenance d'Afrique notamment, on a des cas de plus en plus importants de discrimination et la loi ne permet pas. Donc en fait, il y a les quelques procès qui ont pu être menés justement contre la discrimination. Il a fallu qu'en fait les militants ou le parquet finalement le procureur de la République utilise d'autres textes pouvant permettre d'arriver à une condamnation. Et un exemple, là, il y a une loi une ordonnance de 45 qui sanctionne le refus de servir ou de vendre un bien à une personne, à un consommateur. Et là, effectivement, il y a eu la possibilité de sanctionner notamment le personnel d'un café qui avait refusé de servir des consommateurs antillais. Donc il faut ruser avec la loi aussi du côté des antiracistes. Et surtout, très important, dans cette loi Marchandeau, les associations antiracistes, qui sont principalement à cette époque-là l'ICA, fondée en 1927, et le MRAP, qui a été fondé au lendemain de la guerre, en 1949, ne peuvent pas, en fait, se constituer partie civile. Elles n'en ont pas la possibilité, et donc les poursuites sont menées soit à la demande des personnes qui sont directement, enfin les victimes de ces injures de diffamation, soit par le...
Directement par le parquet, en fait.
Voilà, ouais, absolument.
Oui, ce qui limite, évidemment, le...
Oui, et puis alors, comme le parquet n'est pas spécialement... comment dire, très volontaire sur ce terrain-là, c'est même assez étonnant. Ça reste, en fait, bon, ça fait partie des questions, enfin des autres questions qui pourraient être largement, donner lieu à des développements et à des études qui sont, en fait, bon, qui composent à la fois les parquets, les personnes qu'on trouve aussi, enfin parmi les magistrats, est-ce que, en termes d'épuration, est-ce qu'on n'a pas aussi quand même un certain nombre de personnes qui sont là, qui sont parfois un peu complaisantes, lorsqu'on ne s'explique pas finalement un jugement, est-ce qu'il ne faut pas aller aussi chercher parfois du côté d'un fond idéologique, voilà, ça c'est, J'ai pas fait de prosopographie. Évidemment, je donne beaucoup de noms, notamment d'avocats aussi, mais je n'ai pas véritablement analysé quelles peuvent être les motivations de certains magistrats, c'est-à-dire certaines logiques. C'est pas évident. Dans un procès Bardèche, on a finalement un. Bardèche va être. Finalement, non, je ne vais pas entrer, ça va être
non,
trop
non,
large.
Non, je voudrais qu'on reste sur, effectivement, sur Pleven. Donc, d'accord. Pleven, ça va être c'est la question de l'incitation à la haine raciale qui devient, en fait, le centre même de, le cœur de la loi.
Hein. Et la, ce qu'on appelle, donc, la provocation. À la haine, à la discrimination, à la violence raciale. Et qui donne la possibilité aux associations, là, pour le coup, de constituer partie civile, à condition qu'elles aient 5 ans d'existence et qu'elles aient explicitement dans leur statut la lutte contre le racisme antisémitisme qui soit notifiée.
Alors là, j'ai deux questions. Parce que votre livre s'arrête avec la loi Pleven. Alors, première question, pourquoi elle s'arrête avec la loi Pleven? Et d'autant plus que quand on lit votre livre, on ne cesse de voir une époque se dessiner, hein, c'est-à-dire la fin de la Troisième République, la Quatrième République, le début de la Cinquième, enfin voilà, jusqu'à. Et puis en fait, ça nous rappelle en permanence des affaires qu'on vit cette année, l'année dernière, depuis 10 ans. Mmh. Enfin, bon. Oui. Donc, on voit bien qu'il y a une actualité, voilà. Et puis, là, je voudrais quand même rappeler à l'auditeur, je l'ai pas dit encore, mais vous êtes un historien, mais vous intervenez. Il y a un blog sur le site du Monde qui s'appelle Au cœur de l'antiracisme, on regarde sur des militants des idées, des pratiques, où vous régulièrement vous postez des textes, des tribunes, des rappels historiques. Et c'est très intéressant parce que, à la fois, il y a une manière de faire l'aller-retour entre ce qui se répète et ce qu'il y a de nouveau. On pourrait dire quelque chose comme ça. Et on voit bien qu'on est, alors on ne pourra pas malheureusement évoquer tous les problèmes, mais on voit bien que dans ce livre déjà sont évoqués des problèmes que vous prenez à bras le corps dans votre blog de manière plus voilà, qui est par exemple la question de l'antisémitisme et de l'antisionisme, la question de l'islamophobie qui est évidemment absente de votre livre, c'était pas du tout l'actualité, la question des conflits au sein des luttes antiracistes, le retour de la notion de race, qu'est-ce que ça veut dire que des gens se disent racisés aujourd'hui? Enfin, il y a vous parlez de procès, l'affaire Zemmour, les affaires Soral Dieudonné. Bon, je voudrais juste planter un décor. Hein. Comment vous appréhendez par rapport à votre objet d'étude historique qui est vraiment limité, hein, je veux dire qui est limité dans le temps là. Hein. Ça s'arrête en 72. Et puis en même temps. Vous observez notre époque, quoi. Il y a des problèmes qui se posent, qui se répètent, et des problèmes nouveaux qui se posent.
Pardon. Oui, alors il fallait arrêter le livre
quelque part, c'est sûr.
Oui, et d'une certaine manière, j'avais la chance, si j'ose dire, d'avoir un sujet donc qui est un début et une fin dans le temps, où on peut compter finalement les affaires sur les doigts de... demain et les doigts de pied aussi.
Donc là, c'est par mois. Qu'on peut... Enfin, il y a autant d'affaires en...
Aujourd'hui, je crois que c'est 200 à 300 par an. Donc, ici, il y a un tome 2, et effectivement, je souhaiterais pouvoir poursuivre la réflexion. Ça portera évidemment sur... Ce sera des ponctions et des études de certains procès. Pas forcément les plus célèbres, mais aussi un certain nombre de questions. Voilà, essayer de quadriller tous ces sujets dont vous avez rappelé, l'islamophobie, mais pas que, le racisme anti-blanc aujourd'hui. C'est aussi
la question d'Internet, je ne l'ai pas dit, mais la question de la propagation, de la haine virale, anonyme, mais sur les réseaux. Enfin, on voit bien qu'on est dans un autre monde et en même temps...
Oui. En même temps, il y a beaucoup d'échos et c'est vrai que on le voit dans les arguments qui sont utilisés à l'époque, justement dans les arrêts pour acquitter ou pour condamner un culpé. On a des mécaniques qui se répètent. On a les mêmes problèmes qui se reposent. Et il m'est arrivé, quelques moments j'aurais pu le faire davantage, mais il y a des échos. Parfois je fais une note de bas de page, rappelez notamment une affaire avec Alain Soral, vous en parliez, une caricature où on voyait le président de la République, Emmanuel Macron, avec un brassard, avec je crois que c'était le signe du dollar, avec un drapeau israélien derrière, avec le monde devant lui, en avant vers le chaos, avec derrière les figures de, je crois que c'était Jacques Attali, Raphaël Drahi, je ne sais plus exactement. Mais voilà, on avait finalement tous les éléments qui composent traditionnellement une vision justement du juif qui domine le monde, de la finance, etc. Et plus cette espèce d'élément d'inversion avec le brassard aux couleurs de la swastika. Et pourtant, en vertu d'un d'un arrêt de la Cour de cassation de juin 2017, Soral avait été relaxé parce qu'il n'y avait pas d'appel finalement à la violence. Donc la Cour de cassation a estimé, alors je crois qu'il y a eu un peu une révision de ça, mais à cette époque-là, il fallait finalement un appel explicite. Hein, et on retombe sur cette problématique effectivement de l'affaire Pierre Rousse dont on parlait la fois dernière,
où 1950,
il y a d'autres exemples dans le livre où les juges estiment que comme il n'y a pas d'appel à la violence et comme on n'est pas dans un déchaînement de on peut finalement ça passe ça montre qu'il y a aussi un problème de lecture de l'image. Ici c'est une image, c'est un photomontage, mais c'est pareil, je crois qu'en fait pour comprendre véritablement ce que c'est qu'une caricature antisémite, il faut en avoir vu beaucoup, il faut les avoir analysés. Il faut comprendre ce que c'est que un certain nombre de, il y a des références codées, il y a parfois des petits éléments qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas appris à décrypter ce langage. Et aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux favorisent aussi ce langage codé.
Je rappelle que ce codage, le codage de la parole raciste, moi vous le montrez, moi je ne savais pas par exemple, c'est très tôt, des 39, on ne dit plus les juifs, on dit les habitants. Pour jouer avec la loi Marchandot. Ce que je veux dire par là,
c'est les sionistes en 48.
Quand Soral dit les sionistes aujourd'hui, j'ai lu le chapitre dans lequel vous citez des textes, mais je crois que c'est tiré de Je suis partout déjà, et qui dit, oh non, on dit pas les juifs, on dit pas les israélites, on dit pas les juifs, on dit les habitants.
Parce que la loi dit les habitants.
De perversité.
Ouais, Oui, c'est, ou les intouchables, ou les.
Voilà, les intouchables. Voilà. Et on pense à Soral. Effectivement, là, moi, on pense à Soral quand on dit ces textes.
Absolument, la communauté organisée.
C'est ça. Pardon. Non, je veux dire, parce que, malheureux. Enfin, il y a tellement de points. La question de l'islamophobie, comme je disais, la question des, l'opposition racisme, antisémitisme, la tension, etc. Bon, ce jeu de répétition et de nouveauté, il y a quand même une question que je voudrais vous poser. Peut-être que ça peut permettre d'évoquer plusieurs de tous ces points, parce qu'évidemment, on peut pas s'attarder sur tout. Moi, il y a un chapitre dans votre livre qui m'a paru, assez central pour plusieurs raisons. C'est le chapitre dans lequel vous montrez comment l'extrême droite antisémite se fracture au moment de la guerre des six jours. Et qu'il y a une partie de cette extrême droite qui rejoue le thème antisémite, et il y en a une autre partie fascinée par Israël à ce moment-là. Et ça a des répercussions chez les militants antiracistes. On pourrait dire qu'il y a une division aussi chez les antiracistes à ce moment-là. La LICRA et le MRAP sont pas sur les mêmes positions, comme si au moment où il y a la guerre entre Israël et les Arabes, il fallait choisir sa victime privilégiée, quelque chose comme ça. Et là, il me semble, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses dans ce chapitre-là, que ce « nous », quelque chose, à la fois du côté de l'opposition antisémitisme, antisionisme à ce moment-là, et notamment avec le rôle de l'extrême droite et sa réaction face à cet événement, et du côté de la lutte antiraciste sur cette fracture qui s'est approfondi, on pourrait dire, chez les antiracistes, entre, alors, à l'époque, la LICRA et le MRAP, mais aujourd'hui, on pourrait dire, entre les études post-coloniales. Je saurais pas comment le dire, mais on pourrait le dire de multiples manières, où à un moment donné, on sent bien qu'il y a son indignation privilégiée contre l'autre, et que l'antiracisme s'est fracturé.
Je pense clairement que 1967, c'est vraiment un moment... une date charnière. Enfin, c'est le moment où, comme vous l'avez dit, les lignes se brouillent un peu. Pour bien comprendre l'extrême droite, d'abord, vous avez dit fracture, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, parce que on voit bien que même si, par exemple, Pierre Boutan, qu'il n'est pas d'accord avec Maurice Bardèche, qui, lui, par contre, reste sur des lignes très, très hostiles aux Juifs, fondamentalement, alors que Boutan a tendance, effectivement, il y a une vraie fascination pour le jeune État d'Israël, en tout cas Israël en guerre, un peuple à ce moment-là qui montre son énergie, et une énergie qui fascine en fait le nationaliste qu'il est, comme il fascine en fait tout le camp nationaliste. En fait, c'est ce sentiment que voilà un exemple de ce qu'on n'est plus à cette époque-là dans la France qui a décolonisé, etc. Et donc, même si Boutan...
Boutan et d'autres, c'est pas que Boutan, quand même. C'est une mouvance.
C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura jamais une condamnation en fait, de ce qu'est Bardèche. C'est qu'en fait, il faut quand même lui laisser liberté d'expression, etc. Donc, il y aura toujours des moments où l'extrême droite, finalement, c'est un grand vivier avec des courants différents, mais on voit très très bien qu'il y a quand même des choses qui rassemblent... Il y a des fractures, il y a des courants, mais il faudrait étudier plus en détail en fait ce que sont véritablement des, ce que peuvent être des fractures à ce moment-là. En tout cas, la question des Juifs et des Israéliens, enfin, la leçon en fait, c'est que finalement, pour enfin, je crois que je l'ai écrit un peu en ces termes, pour un nationaliste français, un bon Juif, c'est un Israélien. Et un Juif qui va de France finalement dire vive Israël, c'est une sorte de traître à la France, mais par principe, parce qu'on ne peut pas dire à la fois « vive la France » et « vive Israël ». Un nationaliste, il choisit, et Maurras n'a jamais cessé de le répéter, en fait, au cours de sa carrière journalistique et de polémiste, et en fait, c'est ça, en fait, qui pointe à travers la question de la défense d'Israël, et même Xavier Vallat a fait des textes où, justement, il dit tout son soutien, en fait, à Israël face au peuple arabe, etc. Parce que, mais ça n'empêche pas d'être antisémite par ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, il reste antisémite et il reste effectivement hostile à des citoyens juifs organisés qui constituent toujours un État dans l'État. Mais par contre, effectivement, un vrai juif doit partir État sioniste.
Voilà. Mais alors, comment si on va jusqu'à aujourd'hui, cette tension entre l'antisémitisme et l'antisionisme, tel que vous en montrez un moment très important dans ce chapitre consacré à l'année 67, aujourd'hui, au terme d'une année où la question d'une loi condamnant des propos antisionistes a été posée, débattue. Comment vous l'appréhendez, cette histoire-là, l'histoire de cette tension antisémitisme-antisionisme ?
À ce moment-là, on a véritablement en fait un antisionisme qui va émerger vraiment à gauche, hein, avec le MRAP et une position assez le MRAP ne condamne pas catégoriquement Israël. On voit bien que de toute façon, une bonne partie des militants du MRAP sont aussi des juifs et attachés comme ils l'étaient en fait en 48. Hein, le MRAP était très très pro-sioniste, donc il en reste évidemment quelque chose. Mais on voit bien qu'après, finalement, ça se délite. On voit bien que l'antiracisme, là, il y a des véritables failles qui s'installent. On voit bien aussi que pour la LICRA, enfin la LICA qui va devenir la LICRA au cours des années 70, Israël prend une place de plus en plus importante, que de l'autre côté, le MRAP qui va aussi changer, alors non pas de son acronyme, mais les lettres de son acronyme, en abandonnant justement l'antisémitisme, ça a un sens aussi, on s'intéresse aussi de plus en plus aux immigrés, et la part de la lutte contre l'antisémitisme diminue un peu. Enfin, il n'y a pas de renoncement. C'est toujours un sujet, mais de plus en plus, effectivement, la question de l'immigration. Et donc aujourd'hui, effectivement, on voit bien que par rapport à l'antisionisme, on voit bien que c'est une question qui est très compliquée, mais parce qu'il y a des gens qui, je pense, très sincèrement, estiment qu'ils peuvent. Qui se disent antisionistes parce qu'ils veulent juste exprimer le droit de critiquer. Mais je crois qu'il y a un défaut aussi de compréhension de tous les enjeux qui se logent derrière tout ça. C'est un peu comme l'islamophobie. Je crois que beaucoup de gens sont de bonne foi lorsqu'ils vont utiliser des termes qui, malgré tout, sont minés, parce qu'ils sont instrumentalisés, parce qu'ils servent de levier politique à des groupements, et que, je pense qu'une bonne partie du problème se loge là, et que si ces personnes-là avaient aussi de la culture, justement, sur l'histoire de l'antisionisme, et ces manifestations perverses, la manière dont, effectivement, dès 1948, comme j'ai rarement dit tout à l'heure, on a des gens à l'extrême droite, en fait, appellent les juifs les sionistes. Mmh. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est assez... il y a une association qui est faite très très tôt. Il y a vraiment une perversité dans les discours, et c'est en fait l'absence de maîtrise de ces codes, encore une fois, qui fait que souvent, effectivement, l'antisionisme est un antisémitisme. Mmh. Mais c'est un peu court, je suis désolé.
Non, mais c'est-à-dire qu'il y a... tellement de choses à dire autour à la fois de ce livre et de ce blog que j'évoquais. Bon, malheureusement, on va pas poursuivre aujourd'hui la discussion. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent écouter l'émission de la semaine dernière dans laquelle on avait commencé à parler de votre livre Le racisme dans le prétoire, donc paru au PLUF avec le soutien de la FMS. On en a reparlé aujourd'hui. On a aussi parlé de ce blog. J'invite de ce blog donc sur le site du Monde, au cœur de l'antiracisme, regard sur des militants temps, des idées, des pratiques qui, à la fois, fait des incursions dans l'histoire. Il y a des éléments qui renvoient à votre livre, et en même temps, sur l'actualité, et toute cette question de l'antisémitisme, antisioniste, le racisme, antisémitisme, la question de l'islamophobie. Vous prenez à bas le corps toutes ces questions, vous suivez tout ça. Ça fait plusieurs années que vous avez ce blog. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Emmanuel de Bonneau. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoirevive au pluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.